Al matí, amb Raquel García.
Situem en el mapa de l'Àfrica, just a la República Democràtica del Congo, un país on la violència i les guerres no acaben mai i on les dones i les nenes són les principals víctimes. I és que en aquest país hi ha una de les taxes més elevades d'agressions sexuals de tot el món. Encara que les xifres són imprecises, no hi ha dubte que el Congo avui doncs, és un dels pitjors llocs del món per ser dona. Una causa que, sens dubte, convida a actuar i a no mirar cap a un altre costat. Per això, doncs, avui en parlem amb la Rita Hyvens, presidenta de l'ESCAI. Bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
Que avui ens farà, a banda d'ajudar-nos a fer de traductora, perquè avui doncs, hem convidat a la Cathy Foraja, no sé si ho he pronunciat molt bé, que és advocada i és presidenta de Femmes Juristes pour les droits de la femme et l'enfance. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Què és el que està passant en aquest país, no? Perquè es doni doncs, aquesta situació de violacions a les dones i a les nenes?
Qu'est-ce qui se passe dans la RDC, dans votre pays, dans votre région, pour avoir des conséquences aussi terribles sur les femmes et les filles?
Merci. Ce qui se passe dans ma région, dans mon pays, la République démocratique du Congo, ce sont les guerres répétitives qui occasionnent de multiples conséquences sur la population en général et particulièrement sur les femmes et les jeunes filles qui sont victimes des affres de la guerre qui a causé beaucoup de calamités et qui a causé vraiment beaucoup de douleurs dans la population et qui continue à ronger et à rendre la fille et la femme vulnérables.
El que passa en el meu país és una situació de guerra, situació de guerra repetitives, amb unes conseqüències desastroses sobre la població en general, però també principalment sobre les dones i sobre les nenes. I això continua. És aquestes calamitats continuen, és el diari.
Clar, perquè els nostres oients es facin una idea, ara deia guerres continuades, però em sembla que fa anys i anys, no?, que es mantenen aquestes guerres, guerres entre qui i per què?
Pour que, disons, expliquer un peu mieux la situation, depuis quand il y a cette continuité dans les guerres, dans les conflits, et les conséquences. Pouvez-vous expliquer un peu mieux, disons, qui fait partie, qui alimente ces conflits aussi?
Oui. Mon pays connaît des guerres à répétition depuis 1996.
Oui. Desde 1996, le pays connaît guerres, épisodes de guerres répétitives. Mm-hmm.
Et depuis 10 ans, les guerres se sont vraiment accentuées.
Et desde 10 ans, les guerres s'han accentuat.
Et ces conflits à répétition sont l'œuvre de groupes armés étrangers.
Aquests conflictes repetitius són l'obra, el treball o l'intervenció de grups armats étrangers.
Mais aussi des milices internes, de miliciens, de maï-maï, des civils indisciplinés qui entrent dans la forêt pour faire des troubles et de combattre les forces de l'armée régulière.
Però també, a part de grups armats estrangers, hi ha grups locals, milícies, com per exemple les maïmais, i també a nivell local, de civils, que actuen i que sovint des dels boscos actuen, es desplacen i actuen en diferents comunitats, en diferents llocs.
Uh-huh. I per què doncs, aquestes milícies locals i aquests grups armats estrangers lluiten des de fa tants anys per la riquesa que hi ha en aquest punt del planeta, els minerals, per què?
Quelles sont les raisons qui expliquent que ces groupes étrangers et locaux donc sont encore en conflit dans la région? Est-ce pour avoir un accès aux minéraux?
Oui, il y a beaucoup de causes. Le cause principale, c'est d'abord l'accès aux ressources naturelles.
C'est la première cause, le premier motif est l'accès aux ressources naturelles. Il y a moltes de causes. Hein?
Mais aussi, ils veulent déranger la gouvernance parce qu'ils soutiennent certains locaux, certains civils qui voudraient accéder à la direction du pays.
Si Bolan intervenir, molester. Dir-ho d'una manera més ben educada, volen molestar la governança del país per també per destabilitzar i també per intervenir en la pròpia gestió i també intervenir en les FARC, que són les forces armades regulars del Congo, són l'armada oficial, legal.
Mais aussi les conditions désastreuses, les conditions difficiles de la pauvreté font que les gens pensent que pour accéder à un bonheur ou à une bonne vie, il faut se battre, utiliser les armes parce que la bouche elle-même ne sait pas changer la situation.
Sí, però també hi ha també la situació de pobresa o d'extrema pobresa d'algunes zones, també fa que persones puguin pensar que a través de les armes, utilitzant les armes, també es poden aconseguir coses perquè amb la boca, suposo que el que vol dir amb el parlar, amb el dialogar, pues no s'arriben a canvis.
Clar, amb aquest context i amb aquesta diversitat de factors, la realitat és que és un país on hi ha violència i on les dones viuen assetjades. Com és el dia a dia d'una d'aquestes dones?
Avec les caractéristiques que vous avez expliquées, hein, vous dites, comment est le quotidien des femmes?
Oui, la femme, elle est la source de la vie chez nous. Mais elle est vraiment marginalisée.
En son pays, la dona est la font de la vida, pero está marginalizada.
Elle est sous l'emprise de pratiques néfastes et de coutumes vraiment rétrogrades qui...
Está sota l'effet de... diria de costums o d'hàbits retrógrades.
Elle est dans la situation où elle n'a pas accédé à l'instruction et elle reste dépendante des hommes.
Et está en una situación que no ha pogut accedir a l'educación, a l'instrucció, diu Katia, a l'instrucció, y está sota el domini de l'home.
Elle est pauvre et non protégée par les structures qui existent et elle est la cible directement des groupes armés, des forces négatives, comme pour fragiliser et ridiculiser les hommes qui vivent avec les femmes.
Elle est pauvre. És pobra, està completament no té cap protecció, crec que també no està protegida, no té cap protecció i està sota l'autoritat o sota els ordres dels homes.
Mm-hmm. Sense educació, pobresa...
Sense educació, cultura. Ella parla, no té accés a l'instrucció. No té accés a l'instrucció per la seva llavors, clar, queda completament subordinada, potser seria la paraula més adequada, queda completament subordinada a l'home.
És un dels països on hi ha més agressions sexuals de tot el món?
La RDC est un des pays où le taux d'agression sexuelle est le plus élevé.
Oui, on l'a appelé d'ailleurs à un moment donné le capital de viol.
Sí, en un moment déterminé, comme ça a nommé la capitale de la violation.
Et c'est dû à l'impunité des auteurs des violences sexuelles qui ont été identifiés, mais qui n'ont pas été sanctionnés selon la loi, qui protège pourtant tout le monde, qui n'ont pas été sanctionnés par rapport aux faits macabres, aux faits douloureux qu'ils ont fait subir aux femmes.
Et ça dégoûte surtout à l'impunité. Tot i que els autors poden estar identificats, pues no estan perseguits, hi ha una impunitat i continuen amb les seves activitats, si es pot dir així.
Uh-huh. Clar, dones que són agredides i que no tenen cap protecció, no només suposo que per aquestes milícies, sinó a vegades també per al seu entorn més immediat, per la família.
Sí, doncs són de femmes que no han aucune protecció, disons, devant les milices aussi, mais aussi probablement devant leur entourage, leur propre entourage, même de la famille.
Oui, les femmes sont exposées dans la famille, elles sont marginalisées, elles sont discriminées.
En la famille, les dones, en les seves propres familles, sont discriminées.
Et ça, c'est à cause des coutumes, mais aussi de la loi qui exige que la femme soit épousée par l'homme.
Oui, també és per culpa dels costums que existeixen, però també per culpa de la llei que diu que textualment que la dona està esposada o està esposada per l'home. No sé si ho tradueixo bé. En francès és épousée par l'homme.
Sotmesa, que està sotmesa.
Sotmesa,
no?
Dic que per l'aliança, diguéssim, està completament sotmesa a l'home.
Mm-hmm. Aquestes agressions sexuals es poden donar en el dia a dia? O sigui, ara jo penso, doncs, una dona que surt de casa seva, que va a treballar, que va al camp a buscar, doncs, aliments.
Oui. Cette situació d'agressió sexuelle, peut se produire dans le quotidien, pendant la journée. Dans la journée, par exemple, une femme va travailler, elle va au champ, elle se promène, cela peut arriver.
Les violences sexuelles se commettent à longueur de journée. Il y a des femmes qui sont violées tout le temps, mais beaucoup plus celles qui sont dans des milieux qui ne sont pas très sécurisés. Ce sont les villages, les gens qui vont dans leurs champs très loin et les gens qui reviennent de leur travail à des heures tardives parce qu'elles ne savent pas avoir de la police pour les protéger.
Les violations et les agressions se peuvent commettre à qualsevol moment del dia, però es produeixen més una mica més allunyat de les comunitats i això en els entorns dels camps, quan treballen als camps, i que a vegades pues, també tornen una mica més tard i llavors estan més exposades perquè justament no tenen cap protecció.
Mais aussi dans le ménage, dans les maisons où les gens vivent vraiment en proximité et l'impunité de certains hommes de la communauté fait que les autres banalisent et considèrent que ce n'est rien. On peut faire sur la femme tout ce qu'on veut et ça ne produit rien. Les hommes sont au-dessus des femmes.
Yeah. Però també es pot produir en els entorns més propers, en les cases, en les menars, com diuen les famílies, on la impunitat també és i on també s'ha arribat a un nivell que mira que està com banalitzat. Està com banalitzat i que, per tant, pot passar perquè es considera que l'home està per sobre de la dona.
Clar, llavors, a més d'aquesta violació, aquestes dones suposo que pateixen el rebuig social, no?
Oui, à part, disons, des agressions, de la violation, elles souffrent aussi, disons, être répudiées par la société ou par la propre famille.
Oui, il y a des femmes qui ne veulent pas briser le silence parce que elles craignent d'être rejetées, évidemment, par leur mari ou par les membres de leur famille.
Oui, parce que je crois que c'est très important ce que vous avez dit maintenant. Donc, il y a... que continue en français. Il y a dones que no s'atreveixen a trencar el silenci. I, per tant, perquè tenen por del rebuig primer del marit i també de la família. I crec que aquí, jo insisteixo perquè l'he repetit moltes vegades, això que clar, el repte seria poder trencar el silenci, aquest famós briser le silence.
Et les femmes qui ont peur de briser le silence, c'est parce que quand elles disent le mal qu'elles ont connu, la communauté d'habitude cherche à protéger les hommes parce que les hommes, c'est l'image de la famille, il faut les protéger. Et malheureusement, la communauté condamne, juge la victime et protège les bourreaux. Et c'est ce changement que nous sommes en train de viser.
Diu que... A veure si ho dic bé perquè crec que és molt important aquesta... Si la dona no vol o no pot o té por de trencar aquest silenci, és perquè ella sap que inclús a nivell de comunitat, a nivell del seu entorn, protegeixen més l'home, que és el culpable, que és l'autor, que la víctima, que és ella. I que sempre és la víctima que, o molt sovint, és la víctima que es considera culpable. I la feina que fan elles és justament intentar canviar aquesta situació.
Per això és tan important, per trencar aquest silenci, doncs, el projecte de les cases d'escolta. Que ens expliqui una mica en què consisteix aquesta iniciativa i com pot empoderar les dones.
Si vous pouvez expliquer un peu, ce que nous appelons, ce que vous appelez les maisons d'écoute. Comment fonctionne, brièvement, comment fonctionne une maison d'écoute?
La maison d'écoute, c'est un cadre, un lieu où les femmes viennent exprimer leurs besoins et viennent parler des problèmes qu'elles ont rencontrés auprès des personnes qui leur garantissent la confiance et la confidentialité et qui sont disponibles à leur donner le service nécessaire pour leur stabilisation, pour leur accompagnement légal et pour leur réintégration dans la communauté.
Oui, la maison d'écoute, la casa d'escolta, és un espai físic on les dones i les nenes, també jo afegeixo, tenen accés, poden anar-hi i on saben que estaran escoltades per professionals, estan escoltades per professionals, estaran protegides en aquest entorn i també on també gaudeixen, si es pot dir, de confidencialitat. És a dir, elles saben que és un referent on poden anar a explicar la seva situació, el seu dolor també.
I no tenen por?
Et elles n'ont pas peur de passer par la maison d'écoute?
Il y a eu suffisamment de travail de sensibilisation et de mise en confiance des femmes qui acceptent de briser le silence par le travail assidu que nous faisons, nous, en association des défenseurs des droits de la femme, que celles qui comprennent viennent avec toute l'assurance qu'elles vont bénéficier de soins et bénéficier de l'accompagnement dont elles ont besoin, ne fût-ce que pour stabiliser leur situation et pour leur permettre de continuer avec espérance.
Femme Juriste i les altres associacions han fet ja tot un treball de terreny de sensibilització perquè les dones i les nenes, les víctimes, siguin conscients, siguin informades de que poden acollir aquest espai per sentir-se protegides i per poder parlar i justament trencar aquest silenci. És tot el fruit de tot un treball de sensibilització de temps que s'han fet no només en les maisons d'écoute, però també a les comunitats. Això ho afegeixo jo perquè justament és part del projecte que tenim, no? Que la Lliga té allà i és la part important de la sensibilització.
Perquè la Rita també doncs, és la coordinadora de la Lliga dels Drets dels Pobles que estan fent allà doncs, aquest projecte i que també doncs, és tan interessant i que avui doncs, estem descobrint. Volia parlar també, o que ens expliqués... Què pot trobar doncs, en aquestes cases una dona a qui han violat? No sé si doncs, suport psicològic, si atenció jurídica, si fins i tot doncs, a professionals sanitaris.
Bon, si vous pouvez expliquer une personne qui va à la maison d'écoute, quel service ou quelle aide peut-elle trouver? Point de vue service, disons, médical.
Oui, quand une personne arrive à la maison d'écoute, D'abord, il y a l'écoute active des assistants psychosociaux.
Sí. El primer pas que es troba és l'escolta activa pels assistents psicosocials.
Cette écoute aide à ce que les assistants sociaux puissent savoir dénicher les besoins de la victime qui est venue exposer son problème.
Et ça permet al personnel professionnel à la PSA intentar saber quina ajuda o quines intervencions necessita la persona que està allà, la persona víctima.
Et comme c'est un système, lorsqu'on a détecté le besoin, on fait le référencement, c'est-à-dire on oriente la victime vers les besoins qui va répondre à sa demande. Ça peut être le besoin légal. Il y a des dossiers qui ont commencé, il y a des papiers administratifs qu'il faut remplir. On oriente selon le besoin légal vers les experts légaux, les avocats. Et si c'est le besoin psychologique, il y a l'expert, un psychologue qui est disposé à les recevoir. Si c'est les besoins sanitaires, on oriente aussi vers les exercices de santé, les services de santé pour leur établissement physique. Et si c'est pour la communauté, on constitue des délégations pour aller rencontrer des responsables de la communauté en vue d'apporter une solution au problème exprimé.
Esto es un sistema que está, és tot un protocol que segueix. Primer hi ha l'escolta, hi ha una vegada detectat a través de l'escolta les necessitats de la persona, pues s'orienta. Bueno, hi ha diferents vies i a la millor una persona necessita totes les vies, eh? Una és la mèdica, que pot ser la mèdica, que pot ser la primera, després també la psicosocial, i llavors també hi ha la jurídica, la jurídica, que són elles, justament això jo afegeixo, on elles, la seva organització treballa més, és justament que hi hagi una denúncia de la víctima que pugui diguéssim, implicar el culpable.
Continuem conversant sobre doncs, la situació de les dones i de les nenes a la República del Congo amb Rita Hyvens de la Lliga dels Drets dels Pobles i també doncs, amb la Cathy Foraja, que és advocada i presidenta de Femmes Joves pour le Droit de la Femme, l'Enfants. Estàvem amb el tema de les denúncies. Realment, aquestes dones després donen el pas, denuncien o no aquesta situació?
Les femmes, disons les victimes, font le pas, font le geste de dénoncer les agressions.
Oui, les victimes ont commencé à briser les silences, comme je l'ai dit avant, en dénonçant le fait parce que elles ont pris conscience qu'elles doivent être au centre de leur destin et que tout dépend de leur pas.
Sí, sí que les dones han començat a trencar el silenci, que han començat a denunciar aquestes agressions, perquè ja estan conscientitzades, estan ja sensibilitzades que elles, al cap i a la fi, estan al centre del seu destí, del seu futur.
Et nous avons suffisamment parlé sur le droit. Et nous avons sensibilisé et vulgarisé des textes juridiques qui sont vraiment favorables par rapport aux droits de la femme. Et certaines commencent à prendre l'avance et en voulant jouir pleinement des droits qui leur sont reconnus.
Ça fait molta, ja es fa molta sensibilització sobre els seus drets, sobre les lleis, que són favorables a les dones i, per tant, que hi ha cada vegada més estan decidides a gaudir dels seus drets.
Doncs quina bona notícia, que mica en mica es va avançant.
C'est une bonne nouvelle qu'on avance quand même en toute la situation.
Molts casos d'aquestes violències i aquestes agressions sexuals suposo que acaben derivant en embarassos no desitjats, no? Com es pot intervenir i també què es fa en aquests casos?
beaucoup de cas de ces violations, de ces agressions sexuelles peuvent dériver dans des grossesses non désirées. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Oui, c'est une situation désastreuse que les femmes victimes puissent encore porter des grossesses qu'elles ne désirent pas, une réalité.
Sí, és una realitat i és molt trist que encara, a més de la violació, encara les dones hagin de portar aquest embaràs no desitjat.
Les femmes sont enceintes, elles ont des enfants qui ont de pères non connus et qui, à un moment donné, ne sont pas même acceptées dans la communauté.
Aquestes dones, i sovint nenes, ce sont des femmes et des filles aussi.
Oui, oui.
Tenen aquests fills o filles, aquests infants, que de pare sovint desconegut i que, a més, aquestes no estan acceptades a dintre, ni elles ni els fills, no estan acceptades a dintre de la comunitat.
Avant, on ne pouvait pas parler de l'avortement parce que c'est un crime, c'est une infraction qui est d'arrêter la vie de quelqu'un d'innocent.
Abans, no es podia parlar d'avortament perquè era considerat com un crim, diguéssim, terminar amb la vida era considerat un crim.
Mais comme les femmes, il y en a de celles qui on ne sait pas vraiment aider lorsqu'elles vont chaque fois voir les mal qu'elles ont rencontré en voyant les enfants, il y a eu un grand plaidoyer pour qu'il y ait une loi régionale ou internationale qui puisse aider les femmes dans cette condition de violence sexuelle d'avorter des grossesses qu'elles ne voulaient pas. Et c'est la loi de Maputo, le protocole de Maputo.
Si, devant de cette situation et devant també la situació de desesperació d'aquestes dones i nenes, va haver-hi tot un plaidoyer, un manifest, unes protestes per justament intentar intervenir en aquesta situació i millorar-la. I llavors és sí que ara hi ha el protocol de Maputo que... peut-être vous expliquer un peu ce que, brièvement, le protocole de Maputo.
Oui, le protocole de Maputo, c'est un protocole qui avait été signé à Mozambique, qui était venu comme pour apporter une réponse aux situations de conflits, aux situations de guerre qui causent des problèmes aux femmes et où il y a des grossesses non désirées pour les cas de viol qui devraient être avortées pour éviter des problèmes aux femmes.
L'objectiu del protocol de Maputo que es va signar era per buscar una recerca d'una solució a aquestes situacions de violacions d'infants nascuts d'aquestes violacions per justament a nivell regional encontrar una solució reconeguda i legal que es podia aplicar en aquests casos.
Mais nous connaissons encore un grand défi d'adapter ce protocole à la réalité où il y a la croyance religieuse qui considère qu'on ne doit pas tuer, mais aussi il y a la réalité que les femmes porteuses de grossesses issues de viol sont des femmes qui restent en souffrance toute leur vie et donc on travaille sur le fait que le pays a déjà adhéré à cela. Nous devons suivre par rapport à la réalité.
Sí, el problema és que, tot i que el protocol preveu l'avortament en aquests casos, no dic això, està molt contestat perquè encara hi ha la creença religiosa que es tracta de la interrupció d'una vida humana i, per tant, la seva aplicació la pràctica costa molt perquè té encara molt detractors i detractores per la seva aplicació.
Sorprèn, no? Què fem als països occident? Sembla que girem l'esquena, no?, a la situació, a la realitat de totes aquestes dones africanes.
Qu'est-ce qu'on fait ici au niveau de l'Occident? On regarde d'un autre côté ou comment vous voyez les interventions,
oui,
si vous les considérez, les interventions ou la considération d'Occident?
Oui, nous devons reconnaître le travail que l'Occident est en train de faire sur nos dirigeants, sur nos gouvernements.
Hem de reconèixer el treball que l'Occident fa sobre els nostres dirigents.
Parce qu'ils sont en train de faire une pression pour que ça change et que la femme puisse être dans toute sa dignité et protégée.
Oui, perquè estan fent un treball de pressió, sobre els governants, perquè la dona, les coses canvien i perquè la dona estigui protegida.
Mais aussi, il y a des appuis que nous sommes en train de recevoir des donateurs, mais aussi des associations comme la Liga et d'autres organisations qui interviennent pour nous faciliter le travail sur terrain.
Però també hi ha organitzacions i donants, també organitzacions, aquí cito la Liga, perquè nosaltres ho estem fent, que recolzem o donem suport al treball en el terreny, en el dia a dia.
Et qui essaie aussi de continuer avec les plaidoyers, de montrer la situation qui évolue ou soit qui n'évolue pas, afin que les politiques internationales puissent continuer à jouer le rôle d'améliorer les conditions et de contribuer à la paix dans notre pays.
Sí, i també, es contribueix a la redacció de plaidoyers, de manifestos per pressionar, per continuar a pressionar i denunciar la situació, si avança o no avança, però per informar i exigir sobretot aquesta pressió des d'Occident sobre els governants.
Evidentment, per pressionar els governants, per sensibilitzar i també per no vendre armes a totes aquestes milícies.
Sí. I la vente des armes, des miliciens, des groupes armés, c'est contrôlable.
Ça, c'est vraiment une difficulté parce que nous, on ne contrôle pas, d'autant plus que les armes viennent. On ne sait pas ça vient d'où, mais il y a des gens qui font circuler les armes et il y en a certainement des multinationales qui retrouvent leur compte et qui ne veulent pas que la situation change. Parce que dans ces malheurs, il y en a ceux qui retrouvent leur compte et qui s'en foutent de la situation, de la population et de la femme. Et il y en a maintenant ceux qui ont le souci de voir l'humanité être dans la paix et être dans la concorde et l'harmonie, qui sont malheureusement un petit nombre, mais au moins sur qui nous pouvons compter. Mais les armes circulent chez nous et on sait qu'il y a des multinationales qui les font circuler pour accéder à des ressources naturelles et aussi pour continuer à exploiter et à nous maintenir dans la position de domination.
Sí, les armes hi són, no saben d'on venen, però circulen. Aleshores, llavors, també hi ha multinacionals o empreses enrederes que ells hi veuen avantatge, ells hi veuen avantatge i guanyen diners amb la venda d'aquestes armes i que, de certa manera, no volen que la situació canviï, que es quedi com un status quo amb les conseqüències que ja hem descrit ara. I, per tant, és un problema, dic, molt més ample. Si je peux... il n'y a pas de fabrique d'armes au Congo.
Au Congo, oui.
També en un país tan enorme, tan gran, que quasi tota l'Europa oest, fins a Rússia, a més fins allà, i no hi ha cap fàbrica d'armes. Per tant, d'on venen? La pregunta que fem és d'on venen? Hi són, i ells ho saben, però qui les importa? Com circulen? Suposo que moltes coses se saben, però voldria acabar amb el que va dir la Cati, també, que hi ha una minoria de persones i també de polítics i això, que treballen per la pau i que desitgen que realment la pau arribi, sobretot en aquesta zona dels Kivus, però tot el Congo.
Per això és tan important la tasca que fan entitats com la Lliga dels Drets dels Pobles. Què hem de fer, Rita, si volem ajudar en aquesta causa?
Primer, jo crec que el primer és saber el que passa. Voler enterar-se i voler inclús passar-s'ho malament d'enterar-se del que està passant. Voler posar-nos primer una mica en el lloc de l'altre. I què faria jo? Com reaccionaria jo? Podria suportar-ho? Podria suportar-ho? I després, davant d'una situació tan complexa, tan immensa, crec que sempre es pot aportar un gra de sorra, perquè cap i al fi, jo tinc molt clar a nivell personal i a nivell de Lliga, aportem un gra de sorra. I jo sempre dic, voler entrar en aquesta dinàmica de la solidaritat i de la cooperació, els primers o les primeres persones que entreu i guanyem són les persones que intervenim des d'aquí i que ho volem fer, perquè nosaltres ens enriquim. Jo amb el contacte amb la Cati i tot el seu equip i tota la seva gent, jo m'he enriquit moltíssim. I mira, relativitzes més les coses, perquè si hi ha una cosa que em passa, dic, pues potser no n'hi ha per tant. I això és, jo crec que primer, a través de la solidaritat, de la cooperació, de voler saber, de voler enterar-se, de voler estar... Al cap i al fi som éssers socials, per tant, ens toca fer una part d'activitat social en la nostra vida. Pues voler saber, vull dir, es pot fer a molts nivells, eh? Es pot arribar a molts nivells, però obrir-se una mica i sobretot a vegades posar-se en el lloc de l'altre, crec que és molt enriquidor. Sí, una mica d'ajuda fem, de tant en tant, és veritat, perquè bueno, la paraula ajuda a mi no m'agrada, però d'acompanyament el fem. Només a vegades parlar, escoltar el que passa, estar al seu costat. Això també són persones, tothom és persona, i ells també, vull dir que hi ha també. Per tant, aquesta complicitat, com dic jo, potser si n'hi hagués una miqueta més, també faríem alguna cosa més aquí.
L'empatia, que ens ajudaria a transformar aquest món. I doncs, moltes gràcies a totes dues per explicar-nos doncs, aquesta situació tan difícil, tan complicada per moltes dones que convida, com dèiem ara, no? Doncs a mirar, a entendre aquesta realitat i doncs a no mirar cap a un altre costat i també doncs a defensar que els nostres governs doncs s'impliquin en intentar doncs millorar la situació i de les dones en aquell país i també doncs a intentar ser conseqüents nosaltres com a consumidors per a quines empreses, no?
Sí, també.
I on consumim per doncs intentar frenar aquest negoci de les armes.
Quan parlo de posar-se en el lloc de l'altre a nivell personal, també penso en els nostres polítics, eh? Vull dir, posa't en el lloc de l'altre, a veure si tu no voldries estar entès en aquesta situació com a governant o com a responsable. Pensa una mica i escolta també, que escoltar és tan important.
És bàsic. Moltes gràcies, ha estat un plaer. Una abraçada.
Gràcies, Raquel, per convidar-nos.
Merci beaucoup.